Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est désormais présent au Congo-Brazzaville avec l'acquisition d'Alliance Congo.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Un sujet douloureux, un sujet encore tabou, un sujet pour autant essentiel, la prévention du suicide. Chaque année, le 10 septembre est dédié à cette mobilisation, ces actions des associations, des acteurs de santé, des proches qui œuvrent pour l'écoute et la prise en charge et le suivi des personnes en grande souffrance psychique qui pensent à mettre fin à leur jour, basta l'acte. Une journée mondiale qui prend peut-être cette année une dimension singulière dans les régions du monde où une crise à retardement a suivi la pandémie de Covid-19. La hausse sensible des gestes suicidaires chez les jeunes. Dans un pays comme la France, les professionnels de santé appellent à une mobilisation collective alors que les moyens en pédopsychiatrie sont insuffisants face à ce que l'on désigne désormais comme une véritable épidémie. En France toujours, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Plus de tentatives chez les filles, davantage de décès chez les garçons. Impulsivité, consommation de substances, éco-anxiété, troubles alimentaires. Urgence, en tout cas pour les adolescents, en insuffisance de réponse, en dépit donc des alertes des professionnels de santé. Où intervenir? Quel est le rôle de la famille, du milieu scolaire? Quel lien entre dépression et suicide? Surtout, quels moyens pour une meilleure prévention? Nous vous donnons la parole au 33 84 22 75 75. À l'échelle planétaire, d'après l'Organisation mondiale de la santé, un décès par suicide toutes les 40 secondes. Comment prévenir le suicide? Quelle prise en charge après une tentative? Trois spécialistes avec nous aujourd'hui en studio. On vous retrouve, docteur Marie-Claude Gavard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste à Paris. Vous avez signé notamment le livre « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» chez Marabout. Adolescent en souffrance, des demandes en forte hausse, mais des moyens insuffisants. Nous sommes en ligne avec vous, professeur Priscille Girardin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la chef de pôle de psychiatrie enfant-adolescent au centre hospitalier du Rouvray et des unités universitaires du CHU de Rouen. Un témoignage, celui de la journaliste Mémona Interman qui a signé le livre « Je n'ai pas su voir ni entendre » chez Hugo Doc, dans lequel elle évoque la tentative de suicide de son époux. Le suicide, prise en charge, expérience vue du Burkina Faso où nous retrouverons le professeur Haruna Ouédraogo, chef de service de psychiatrie au CHU Yelgado Ouédraogo de Ouagadougou. Et puis en fin d'émission, alors que les élèves français ont fait leur retour en classe, on va parler de la présence de substances chimiques dans certaines fournitures scolaires. Constat après une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On donnera la parole à Aurélie Mathieu, coordinatrice de cette expertise à l'ANSES.
Priorité santé sur RFI.
Alors, est-ce que parler du suicide, c'est efficace pour prévenir le suicide? Docteur Marie-Claude Gavard, c'est une vraie question. J'imagine que les professionnels de la santé mentale, de la psychiatrie, sont penchés sur ce sujet. Dans quelle mesure aborder ces questions de tentative de suicide, ça peut permettre d'en prévenir l'issue fatale? On parle bien sûr d'en parler avec les patients, mais aussi d'en parler dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la société, dans les médias, comme aujourd'hui à la radio.
Il est fondamental de parler davantage du suicide, parce que d'abord, on a vu avec la crise du Covid à quel point des jeunes isolés ont multiplié les suicides. Et aussi... aborder ça de façon réaliste, en arrêtant de cacher la problématique du suicide. Pour les familles, je trouve qu'il est important qu'elles arrêtent de culpabiliser lorsqu'un de ses membres est dépressif et suicidaire. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'entraide basé sur la connaissance qui est nécessaire.
Malgré tout, je vais vous couper par rapport à ça. Vous dites qu'il ne faut pas ni avoir honte ni le cacher. Pourtant, quand on parle du suicide dans une famille autour, les gens vous regardent en disant ben, « c'est pas arrivé chez moi, c'est arrivé chez lui, c'est peut-être pas arrivé par hasard ».
Oui, mais il est toujours plus facile de critiquer les autres. Bon, cela étant dit, il n'y a pas besoin de parler du suicide hors du contexte familial proche ou amical proche. C'est pas nécessaire. De plus, la personne dépressive et suicidaire qui a fait ou non une tentative n'a pas envie d'avoir cette publicité.
On ne va pas l'étaler au grand jour devant tout le monde,
c'est pas
la question.
Et alors, la honte, c'est dommage parce que tout ce qui concerne la psychiatrie et le mal de vivre n'a pas à être honteux. Mais ça, c'est dans notre culture encore.
On dit parfois justement qu'il y a ce tabou du suicide. Ça veut dire que quand il y a des appels à l'aide, ils ne sont pas toujours suffisamment entendus, d'après vous ?
Très fréquemment, ils ne sont pas entendus parce que la personne n'est pas tout à fait explicite et où elle pense qu'en donnant un signe lambda, tout le monde va comprendre.
Parce que ce sont des personnes en souffrance extrême, y compris en parler, ça fait encore plus mal.
Alors, ça peut, mais il n'y a pas forcément une souffrance extrême. Il peut y avoir une lassitude des difficultés de la vie.
Fatigue.
Et une absence de visibilité d'une solution, d'une amélioration possible. Alors, certes, il y a les suicides après des drames, des événements extrêmement violents et perturbants, mais le suicide est aussi envisagé comme une porte de sortie à une situation difficile. Et quelquefois, les tentatives de suicide, ce sont des appels au secours, au niveau de l'entourage, au niveau aussi de « aidez-moi à trouver une solution ».
On se sent enfermé. Justement, ces signaux d'alerte, docteur Gavard, chez une personne, est-ce qu'on peut pointer des changements, des comportements, voire même, vous disiez tout à l'heure, ces événements qui poussent l'entourage à s'interroger? Est-ce qu'on peut parler de signes avant-coureurs d'un passage à l'acte ou pas vraiment?
Il y a. Alors, je pense qu'il est hyper important en psychiatrie en général, en psychologie aussi, de ne pas faire de généralité. C'est-à-dire, et oui, bien sûr, il y a ceux qui sont mal, ça se voit, ils ont changé de comportement, d'habitude, de contact, de communication. Là, on voit que c'est une dépression souvent qui risque d'arriver au suicide. Mais comme c'est variable d'une personne à l'autre, et la façon d'expliquer sa situation est variable d'une personne à l'autre, attention aux généralités. Vraiment, là, l'important, ce serait d'arriver à améliorer la communication et, alors qu'on est quand même dans une culture où la culpabilité est très importante, c'est réviser un peu notre façon d'élever les enfants au niveau de la culpabilité. Parce que quand on se sent coupable, indigne et tout ça, on n'a pas forcément envie de vivre.
Est-ce qu'on a vraiment le droit d'aller mal ?
Alors, dans notre culture, ici, c'est quand même la réussite, la jeunesse, la beauté, les médias, une réussite aussi bien des chanteurs, des footballeurs. On n'est pas sur le bonheur intérieur d'une personne, sur son humanité. On est beaucoup plus pour souligner et s'émerveiller devant la poudre aux yeux et pas au niveau du bien-être de la personne. Et justement, ça fait que ceux qui ne sont pas dans une réussite effrénée peuvent avoir honte. Et c'est vraiment un phénomène de société fondamental, notamment au niveau de l'éducation des enfants et des adolescents.
On dit phénomène de société, c'est bien cela à quoi on assiste dans certaines régions du monde ces derniers mois. On peut même parler d'une génération sacrifiée, cette génération qui connaît une hausse spectaculaire des passages à l'acte. La jeunesse constate en France, à l'échelle nationale, on le voit aussi dans d'autres pays d'Europe. Nous sommes donc avec vous, professeur Priscille Gérardin. On vous retrouve en Normandie, où vous êtes donc psychiatre dans cette région de Rouen, chef de pôle de psychiatrie enfants-ados au centre hospitalier du Rouvray. Je disais constat à l'échelle nationale. Est-ce que c'est exagéré de dire qu'en 2022, en cette rentrée 2022, une partie de la jeunesse va mal, voire très mal ?
Alors, on ne sait pas encore comment cette nouvelle année va se dérouler, mais en tout cas, on sait que les deux dernières années ont été effectivement assez préoccupantes et où ces jeunes adolescents, jeunes adultes, étudiants, nous ont montré qu'effectivement, une partie d'entre eux, qui reste une minorité, mais qui ont énormément augmenté en termes de nombre et en termes de type de souffrance, effectivement, nous interpelle avec des manifestations, effectivement, de crises anxio-dépressives, de passages à l'acte suicidaire, de troubles des conduites alimentaires, et puis, globalement aussi une augmentation des violences et d'exposition à des violences intrafamiliales ou par harcèlement, par exemple.
Alors ce constat, est-ce qu'il se traduit concrètement à l'échelle d'une structure comme la vôtre dans cette région Normandie ? Est-ce que vous avez vu, par exemple, le nombre d'admissions augmenter de façon sensible ?
Ah oui, et c'est sûrement que la partie émergée de l'iceberg, mais c'est très clair qu'à nos niveaux sur le CHU de Rouen et en particulier sur les urgences de pédiatrie ou encore sur la maison de l'adolescent, on a vu exploser effectivement l'arrivée de ces jeunes pour les troubles que je citais. Et ce phénomène est tout à fait retrouvé au niveau national et aussi international, européen et autres. Donc on voit bien que là, qu'il se passe quelque chose d'extrêmement préoccupant, de nouveau dans son ampleur et sa gravité.
Est-ce que vous avez pu définir le profil, professeur Gérardin, de ces jeunes, de ces ados qui sont admis en urgence? C'est peut-être très schématique, mais on voit en quelque sorte une nature assez différente dans les passages à l'acte, les filles d'un côté, les garçons de l'autre.
Non, ça c'est quand même quelque chose qu'on connaissait, c'est simplement l'ampleur du phénomène qui est augmentée. Après, ça serait difficile de dire qu'il y ait une nouvelle typologie. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit chez des patients qu'on connaissait une aggravation pour un nombre non négligeable d'entre eux, et puis surtout arriver des jeunes qui, vraisemblablement, dans un contexte de société autre, on n'aurait jamais vu et n'aurait pas décompensé. Donc c'est ça qui nous interpelle, et puis aussi avec des conséquences dans leur investissement globaux, que ça soit en particulier, ça se traduit au niveau d'un nombre de déscolarisations, par exemple aussi, qui là n'apparaissent pas au niveau des urgences, mais apparaissent au niveau de l'éducation nationale. Hein, on voit beaucoup de jeunes aussi se désinvestir ou s'interroger quand même beaucoup sur leur avenir et sur leur investissement.
Alors, on parle de la prévention aujourd'hui, cette prévention du suicide. Est-ce que beaucoup de jeunes suicidaires, après une tentative, reviennent plusieurs fois? On parle là de la récidive, bien sûr.
Alors, il faut savoir que le fait d'avoir fait un premier geste suicidaire est le facteur de risque majeur de récidive et de risque d'aboutissement, malheureusement, d'un suicide. Donc, c'est quelque chose qui doit être vraiment repéré et pris en charge. Et donc, quand il y a eu un passage à l'acte suicidaire, il faut absolument médicaliser aux urgences si le passage est récent, sinon s'orienter vers une consultation chez le médecin généraliste, sur une maison de l'adolescent. En tout cas, ne pas laisser ce geste sans réponse, sans évaluation et sans suite à donner. En sachant que sur les structures de soins, il y a un dispositif qui s'est développé au niveau national, qui a été créé par nos confrères de Lille, le dispositif vigilance, qui fait que vous rentrez du coup dans un dispositif de suivi, de rappel, qui permet de garder un lien et justement de suivre l'évolution de ces jeunes de manière à essayer de prévenir une récidive suicidaire. C'est vraiment un point extrêmement important. Et puis citons aussi le numéro de téléphone 3114 pour tous ceux qui sont en crise suicidaire ou pour l'entourage et qui s'interrogent et qui peut être aussi, là c'est un numéro de téléphone récent, un point d'appui pour tous.
Suivi après les urgences, mais on sait que dans les faits, ce n'est pas si simple. Hein. Des familles se retrouvent complètement démunies. Elles rentrent à la maison avec les ados une semaine après un geste particulièrement douloureux. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à ces parents qui se retrouvent sans ressources en termes de suivi, de prise en charge post-urgence?
En tout cas, qu'il faut rappeler si effectivement, ce qui normalement ne doit pas être le cas, puisque le passage aux urgences et potentiellement sur une hospitalisation, c'est bien sûr évaluer la gravité, mettre en place les dispositifs d'urgence, mais aussi préparer le post-urgence et donc réorienter sur un lieu de consultation. Donc, si ça n'a pas été le cas, s'il y a une difficulté, il faut se retourner vers les structures que j'ai citées précédemment, maison des ados, médecins généralistes, et puis le 3114 aussi, qui peut être un lieu d'orientation pour aider à trouver une prise en charge qui puisse accompagner la suite de ce passage à l'acte. Il ne faut jamais, encore une fois, laisser sans réponse.
Alors, professeur Gérardin, on va vous retrouver. Docteur Gava, je me tourne vers vous. Prise en charge hospitalière, on l'a bien compris. Urgence, suivi, prise en charge par la médecine de ville aussi pour certains cas. Un traitement médicamenteux, est-ce que c'est toujours indiqué face à des situations aussi critiques?
Alors, à nouveau, je vais vous dire le toujours en psychiatrie.
Ça ne marche pas.
Non.
Des cas singuliers.
Hein, de plus, il est tout à fait possible que cette personne soit déjà sous antidépresseur, avec une dépression traitée. Donc, c'est au cas par cas. Mais, vous voyez, pendant la crise du Covid, et moi, j'ai eu des jeunes qui m'ont appelé en urgence, comme ça, qui m'expliquaient, vous comprenez, je suis dans un 9 mètres carrés, je ne peux pas sortir, je n'ai pas le droit, je n'ai pas les moyens de m'alimenter correctement, je ne vois plus mes amis, je ne vois plus ma famille. C'est-à-dire que c'était une incarcération due au virus que beaucoup d'étudiants, d'abord n'ayant plus leurs cours juste par ordinateur, ont été dans une situation d'isolement qui était comme une incarcération, c'est ce qu'ils disaient. Et là, effectivement, il y a une urgence, mais souvent, ils n'appelaient pas. Hein, ils se sont retranchés dans leur malheur, sans communication, dans une souffrance qui augmentait. Et pour eux, la seule solution pour échapper à ça, c'est pas qu'ils désiraient la mort, mais ils désiraient que cette situation cesse. Mmh. Et ils n'avaient pour eux pas d'autre solution.
Priscille Girardin, on a donc évoqué très rapidement cette prise en charge en situation d'urgence. Notre sujet du jour, c'est la prévention. Vous, psychiatre, pédopsychiatre, c'est quoi ce qu'il faut aujourd'hui justement pour une meilleure prévention du suicide ?
Il y a différents niveaux de prévention qui sont possibles, qui vont, quand il y a un passage à l'acte et a fortiori un suicide au sein d'un établissement scolaire ou au sein d'une famille, il faut pouvoir se tourner vers des dispositifs qui justement viennent prévenir le risque qu'il y ait d'autres passages à l'acte, par exemple. Et puis, il y a des préventions qui sont bien en amont, qui seraient déjà le traitement médiatique peut-être d'un certain nombre de passages à l'acte, et puis plus globalement d'une ambiance de société, où ça, tous les adultes que nous sommes, quelles que soient nos places à l'éducation nationale, en tant que professionnels, en tant que parents, en tant que journalistes, nous avons une responsabilité pour donner finalement une image du monde à l'heure actuelle et de notre société, qui certes ne dissimule pas les difficultés actuelles et les enjeux, mais en même temps ne se centre pas sur ce catastrophisme perpétuel, sur cette focalisation sur les choses les plus négatives, les plus préoccupantes, et mettre aussi le focus sur les actions qui sont possibles et donne une place à la jeunesse pour justement être actif. Et puis du côté de l'éducation nationale, par exemple, au exemple de prévention, il faut que chaque collège, lycée puisse indiquer, puisse avoir des actions autour de la santé mentale et puisse indiquer aux jeunes, si vous êtes en difficulté ou si un de vos amis est en difficulté, voilà vers qui vous tournez. Il y a l'infirmière scolaire, il y a la psychologue scolaire, il y a le CPE, il y a telle personne qui est de référence pour vous et qui est là pour vous écouter, quels que soient les problèmes, que ce soit des violences, que ce soit un risque suicidaire, etc. Donc nous avons chacun une place importante à jouer, à un niveau professionnel, à un niveau de parents et à un niveau de société et les journalistes au premier plan.
Défi nombreux. Merci beaucoup, professeur Priscille Girardin, d'avoir été en ligne avec nous. Docteur Gavard, on a parlé très brièvement des médicaments. C'est bien sûr l'un des outils de la prise en charge si nécessaire. Il y a la psychothérapie aussi, puis l'écoute et le travail des associations, c'est vraiment essentiel.
Ah oui, tout à fait. C'est vraiment il est important que la personne se sente entourée et comprise. Voyez, et quand on voit ce changement des trentenaires à l'heure actuelle, qui ne sont plus pour gagner de l'argent de façon folle, travailler beaucoup trop, etc., et qui sont beaucoup plus pour le bonheur, le respect, la communication, l'entraide, là, on peut voir qu'ils échappent à la pression culturelle des parents, des générations antérieures. Et on peut souhaiter que le bien-être de l'enfant, qui n'est pas un être qui doit être performant et qui est tout le temps critiqué, qui a des mauvaises notes, qui sont soulignées en rouge, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un poids extrêmement important. On peut espérer que ces trentenaires vont apprécier la vie et les qualités humaines beaucoup plus que l'argent. Et cet argent et cette réussite un peu folle fait qu'il y a quand même un désarroi mondial, en fait.
Plaidoyer pour la bienveillance.
Ah, oui.
Tout de suite, un témoignage dans Priorité Santé. En ligne avec nous, Maimona Interman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste. L'an dernier, vous avez signé un livre témoignage intitulé « Je n'ai pas su voir ni entendre » qui évoque notamment la tentative de suicide de votre époux. Je précise que cet entretien a été enregistré. Maimona Interman, sujet extrêmement personnel et aussi, on le dit depuis le début de cette émission, un sujet tabou. Pourtant, vous avez choisi de raconter ce qui s'est passé à l'automne 2020. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
J'ai bien fait d'écrire ce livre. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas inventé comme ça toute seule. C'est mon fils qui, lui, est médecin vétérinaire, donc qui m'avait parlé des coups de blues chez les animaux, qui m'avait dit « Mais maman, il faut que tu racontes, il faut que tu écrives. » Il m'a donné le courage de le faire. Je n'ai pas attendu beaucoup. Quand je l'ai fait, j'étais encore sous le choc. Je ne suis pas tout à fait sortie d'affaires. Entre-temps, j'ai rencontré énormément de gens concernés par des suicides réalisés ou des tentatives de suicide. On ne peut pas rester dans son coin. Vous voyez, c'est ça. Le sujet, c'est ne restez pas tout seul. Osez en parler à votre voisine, votre collègue de bureau. Ne culpabilisez pas. Le grand écueil, c'est de se dire justement ce que je me suis dit. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je ne vois pas que mon mari était en train de dévisser ? Je n'ai pas vu qu'il décrochait. Et il a décroché au moment du premier confinement, parce qu'on a été séparés à ce moment-là. Il était en province, on pensait que c'était mieux pour lui. Souvenez-vous, on ne savait pas où on allait avec le virus. Donc tout le monde était dans une grande angoisse. Et je n'ai pas vu combien il avait retrouvé son amie, une copine qui s'appelle un bon verre. Un bon verre, puis un deuxième verre.
Mais Maimona Interman, je retiens quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Il ne faut pas culpabiliser. Pourtant, ce titre, je n'ai pas su voir ni entendre. Il y a quand même quelque chose de culpabilité dans ce titre-là.
Bien sûr qu'on est culpabilisé quand ça arrive. Ouais. Parce que c'est à ce moment-là, on se dit, pourquoi ?
Vous en êtes sorti, vous, de cette culpabilité ?
Pas tout à fait. D'ailleurs, j'avais essayé, moi qui avais été dans des pays en vrac, des pays soumis à la guerre, je n'avais jamais eu de psychothérapie ou d'entretien avec un psy. Et après ça, j'ai éprouvé le besoin de me dire, je ne peux pas continuer, je ne peux pas rester seule. C'est très compliqué de trouver un psy en France. Mais en parler, en faire un récit, en parler entre nous, aide. En revanche, mon mari déteste qu'on en parle. Là, ça fera 2 ans.
Il déteste qu'on en parle, et d'ailleurs, c'est une question qui se pose pour les personnes confrontées aux tentatives de suicide. Quand vous évoquez son acte, vous dites quoi ? Tentative de suicide ou des périphrases ? Ou alors vous n'en parlez plus du tout ?
Non, non, on tourne autour du pot, on dit TS. Ouais. On dit TS, on dit « tu te souviens, il y a 2 ans ». Et lui me regarde toujours un peu du coin de l'œil, on dit « mais c'est fini, mais ça va ».
Et lui, il a fait un travail sur lui-même ?
Oui, alors il a trouvé épisodiquement un psy, ici ou là, en payant assez cher d'ailleurs, parce que dans les hôpitaux, on ne trouve pas. Et puis, il y a des régions de France qui sont totalement sinistrées.
Dans ce parcours personnel, il y a aussi ce qui s'est passé dans votre famille, dans votre couple. Et puis, il y a un état des lieux, parce qu'au-delà de votre cas personnel, vous avez voulu comprendre ce qu'était ce suicide, ce phénomène, ces chiffres. Et vous le dites aujourd'hui, des personnes vous ont contacté parce que pour vous, en parler, c'est essentiel. Écrire, ça a été très important. Vous voyez comment maintenant les choses ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est dépassé ou que ça va toujours rester ?
Alors, pour nous, c'est un point noir dans nos biographies. Mais là où ça m'a semblé important, c'était vraiment de tirer la sonnette d'alarme. Ah. On ne peut pas, dans un pays comme la France, se dire que chaque année, il y a 200 000 tentatives de suicide. Vous savez, une tentative de suicide, il ne faut pas la prendre à la légère. Ça arrive très souvent d'ailleurs, que les gens recommencent et qu'ils réalisent leur suicide. Il y a un drame pour les concernés, ce qui met un point final à leur vie, en tout cas, ils manifestent la volonté de le faire. Et pour les proches, c'est une catastrophe. Vous savez, ça m'a rappelé les mines antipersonnelles quand j'allais en reportage. On disait attention aux mines, elles peuvent exploser à tout instant. C'est ça dans nos vies maintenant. Moi, quand mon mari rentre tard, d'ailleurs, on ne le laisse plus tout seul. Mais quand il va faire une course, il rentre tard, mais on a la trouille, mais on a peur.
Tout à l'heure, vous disiez difficile d'accéder à une psychothérapie en France. Alors, beaucoup de personnes nous écoutent dans un autre contexte, en Afrique, avec aussi, là encore, le tabou du suicide. À celles et ceux qui nous écoutent, on parle de prévention du suicide. Vous, le message que vous voulez faire passer, Mémona Interman, c'est quoi ?
Je connais assez bien l'Afrique puisque je fais des reportages souvent, mais nous, à l'île de la Réunion, je suis créole de l'île de la Réunion où nous avons cette sédimentation des populations, notamment africaines. C'est un tabou gigantesque. Et là-bas, j'ai rencontré des gens, y compris des voisins ou de ma propre famille, en disant on connaît un tel ou un tel, mais on chuchote. On chuchote et on sait qu'il y a un énorme drame concernant les jeunes. On connaît les endroits où ils sautent des ponts. On connaît aussi les poisons à base de plantes, nous. Et on a là-dessus des tabous, des interdits, parce que ça ne se fait pas, parce qu'on a honte, parce qu'on culpabilise tout le monde. Et aux Africains qui nous écoutent, que je salue vraiment, profondément, ils m'ont ouvert la porte, ils m'ont tant aidé que je peux me permettre de leur faire ce conseil. Ne restez pas tout seul, faites-en un récit, parlez-en. Ne culpabilisez pas l'autre, ne le diabolisez pas. Ce n'est pas le diable qui a pris son esprit, c'est simplement une faiblesse, peut-être momentanément. Mais il faut s'entraider, il faut s'écouter. Et quand je dis « il faut », c'est dur pour moi. Parce que certains jours, quand je regarde mon mari, je me dis « franchement, tu n'aurais jamais dû me faire ça ». Vous voyez, on se dit soi-même « qu'est-ce que c'est dur ». Mais bien sûr que c'est dur, c'est très très dur, c'est très dur.
Mais c'est comme ça, et on tend la main. Merci beaucoup pour ce témoignage. Mémona Interman.
Merci à vous et RFI que je salue.
Je n'ai pas su voir ni entendre un livre publié chez Hugo Doc. Merci beaucoup Mémona Interman. Docteur Marie-Claude Gavard, ce témoignage de la journaliste Mémona Interman, l'épreuve pour le patient, on l'a bien compris, pour l'entourage, on l'entend. Cet impact pour les proches, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger.
Ah, rien n'est à négliger au niveau psy, parce qu'on ne connaît pas la portée des choses et pas forcément des événements non plus. Et effectivement, alors se poser la question, lorsque quelqu'un de sa famille va mal comme ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? C'est toujours intéressant, c'est toujours important. Mais on n'est pas tout puissant non plus. Et l'autre, pour ne pas déranger, pour ne pas faire de peine, pour ne pas dramatiser les choses, peut se taire et peut cacher son désarroi. Donc, tout dépend. Et la personne qui n'a pas, de l'entourage qui n'a pas été capable d'entendre, il faut voir que c'est vraiment par rapport à son trouble elle-même. un déni. Souvent, dans les familles, il y a beaucoup de déni. Et le déni peut faire penser à celui qui va très mal, qui ne va pas y avoir de solution. Alors, je pense que la prise en charge est absolument fondamentale. Quelquefois aussi, quand il s'agit de jeunes, c'est important que les parents aillent demander conseil et se posent la question, surtout puissent avoir des réponses, de, est-ce que dans mon comportement parental, j'ai pu ne pas suffisamment comprendre ou est-ce que vous pouvez m'aider à m'y retrouver et savoir quoi faire ?
Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui pour que ça aille mieux aussi ?
Éventuellement, si c'est parce qu'il y a eu aussi une problématique familiale.
Docteur Gavard, on va vous retrouver pour poursuivre notre échange. Ce sera juste après Loose and the Yakuza avec ce titre Monsters.
Il me suit calmement. Si on a un qui n'aime pas la ville ou la vie, change de département. On met sur des équipements de chance et on lance, et on lance, et on lance. En espérant tomber sur les numéros qui semblent être le gagnant.
Priorité santé sur RFI, 10 septembre, journée mondiale de prévention du suicide. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Marie-Claude Gavard, psychiatre et psychanalyste ainsi que psychothérapeute. Un autre témoignage maintenant. On va partir pour le Cameroun où nous retrouvons en ligne, nous retrouvons une auditrice. C'est vous, Adaï, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes à Maroua, Adaï. Vous êtes âgée de 29 ans et depuis plusieurs années, on peut dire que vous êtes en souffrance, hein, c'est ça?
Oui.
Est-ce que vous avez mis un nom, le nom d'une maladie, sur ce que vous ressentez?
Je me dis que c'est dépressif.
Vous dites que vous avez une dépression. C'est le diagnostic d'un médecin ou c'est vous-même qui avez identifié cette dépression?
C'est moi-même qui l'ai identifié.
Alors, suite à quels symptômes, Adaï?
Ça fait déjà 2 ans que j'ai failli me suicider. Et à l'époque, il y avait une sensibilisation contre le suicide. La dépression.
Vous dites, Adaï, excusez-moi, j'ai failli me suicider. Vous avez voulu passer à l'acte. Ça veut dire quoi? Vous avez eu des pensées très sombres ou vous êtes allé jusqu'à mettre votre vie en danger?
Non, j'ai seulement pensé.
En pensée.
Je ne suis pas arrivée jusqu'au bout.
Et qu'est-ce que vous avez fait après? Vous êtes allé parler à quelqu'un? Vous êtes restée toute seule ou vous avez gardé tout cela pour vous?
J'en ai parlé à ma mère, mais bon, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Bon.
Quand vous dites qu'ils ne m'ont pas pris au sérieux, ça veut dire qu'ils vous ont dit « Allez, ça va aller ». En gros, ils ont, comme on dit, minimisé, donné moins d'importance à ce que vous ressentiez?
Exactement.
Est-ce que pour vous, cette souffrance, elle a une cause? Elle s'explique par votre parcours personnel?
Oui.
Par quoi?
C'est dû aux multiples viols que j'ai subis dans la famille et au manque d'une attention existentielle.
Il y avait quelqu'un dans la famille qui vous a fait du mal, qui vous a brutalisé, qui vous a violé régulièrement?
Oui.
Vous en avez parlé dans la famille?
Oui, c'était tous au courant.
Tout le monde était au courant?
Exactement.
Et quand vous avez parlé, qu'est-ce qu'on vous a dit?
J'étais responsable. Pourtant, je n'avais que entre 6 et 7 ans.
Donc, vous étiez, bien sûr que non. Vous étiez une toute petite fille, vous étiez un enfant. Et de toute façon, non seulement c'est un crime, c'est un interdit, c'est une abomination. Et donc, personne ne vous a écouté, personne ne vous a pris au sérieux.
Personne.
Est-ce que ce viol, ce traumatisme, ces viols, ces traumatismes à répétition, vous en avez parlé avec un médecin ?
J'en ai parlé une fois, mais le médecin m'a dit que c'est ce qui se passe dans certaines familles que je dois reprendre sur moi.
Là encore, on vous a dit, cette chose horrible, oublie, c'est pas grave. C'est ça ce qu'on vous a répondu.
Exact.
C'était qui ce médecin qui vous en avait parlé ? Un médecin de la famille ? Un médecin qui connaît votre famille ?
Non, c'est un médecin qui est chargé de prendre en charge les élèves du lycée.
D'accord. Donc c'est bien... Tout à l'heure, on disait, on avait une psychiatre en ligne avec nous qui disait qu'il fallait prendre contact avec des gens à l'école, qu'il fallait aller vers des médecins. Eh bien, on voit là que vous avez eu ce courage. Vous avez fait cette démarche, ce qui est remarquable, ce qui est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et la personne en face de vous, encore une fois, eh bien, elle n'était pas à la hauteur. La famille, elle n'était pas à la hauteur. La communauté médicale, en tout cas, ce triste représentant de la communauté médicale, n'était pas à la hauteur. Alors aujourd'hui, Adaï, est-ce que vous voulez encore en parler à un médecin ou pour vous, est-ce que c'est fini, c'est trop tard ?
Non, je peux toujours en parler s'il y a des solutions.
Ouais, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard parce qu'il y a le docteur Gavard qui vous écoute. Et quand on vous écoute, on ne peut pas faire autre chose que de froncer les sourcils parce que votre histoire, elle est terrible. Parce que par rapport à beaucoup de jeunes filles qui subissent ce genre de traumatisme, vous avez été extrêmement courageuse. Et pourtant, docteur Gavard, la réponse... Si on ne peut pas dire qu'elle a été minable, elle a été atroce. Parce que ce courage, il n'a pas été entendu.
Oui, c'est pas, c'est, le courage ne peut pas être entendu par une famille qui a peur qu'un drame comme ça, comme le viol, perpétré par un membre de sa famille, fasse exploser la famille. Hein. Et pouvoir dire qu'une enfant est responsable, de la même façon qu'on entend qu'une jeune fille qui va avoir une mini-jupe est responsable du viol, tout ça, ce sont des aberrations qui montrent à quel point il y a un chemin très important à faire. Et notamment, pour vous, Adaï, vous avez eu sur votre chemin des personnes qui n'avaient pas de formation, aucune formation par rapport au suicide, aucune formation par rapport à la réalité de la responsabilité. Votre famille, comme de nombreuses familles, lorsqu'il y a quelque chose de très grave, préfère nier... accuser une seule personne plutôt que de voir que tout le système familial risque de s'écrouler. Le médecin qui vous a dit de faire avec n'a pas de formation, c'est clair. Lui, il pense que vous avoir dit ça, ça va vous permettre de tourner la page. Or, la page peut être tournée éventuellement, tout en laissant des cicatrices, évidemment. Mais lorsque le malheur a été reconnu, et votre innocence a été reconnue et que vous êtes reconnue en tant que victime. Et là, pouvoir discuter avec quelqu'un qui a une formation, c'est absolument important pour vous.
Adaï, on va tout de suite donner la parole à un spécialiste du continent qui est en ligne avec nous. Et je pense que vous allez pouvoir échanger avec lui. C'est le professeur Haruna Ouedraogo. Professeur, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Alors vous êtes le chef du service de psychiatrie au CHU Yelgado Ouedraogo. On a Adaï qui est en ligne du Cameroun, de Maroua. Adaï dit qu'elle est dépressive, elle a des idées sombres, elle a été violée dans sa famille, personne ne l'a entendue. Je pense que vous avez écouté ce témoignage extrêmement poignant. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire parce qu'elle a vu un médecin, le médecin lui a dit passe à autre chose. Vous, en tant que professeur de psychiatrie, qu'est-ce que vous voulez lui dire ?
Bien, je vous remercie. J'ai effectivement écouté le récit de madame. Je crois que, comme l'a dit ma collègue, hein, il faut absolument qu'elle puisse voir un professionnel de santé mentale. C'est important de pouvoir se confier à quelqu'un qui connaît quand même les démarches à suivre en cas donc de traumatisme assez important de ce genre-là. Et donc, ça permet de l'aider à réparer, en fait, ce traumatisme-là. Il n'est pas possible, en fait, de demander à la personne d'aller faire avec. Médicalement, ça pose quand même un problème. Et donc, on a besoin quand même qu'elle puisse voir un spécialiste. Et je pense que Douala, elle a la possibilité aussi d'aller dans les centres spécialisés et puis demander à voir un psychologue ou un psychiatre.
Adaï, est-ce que vous pourriez faire cette démarche, aller dans l'une des grandes villes du Cameroun, Yaoundé ou Douala, et essayer de demander à quelqu'un de vous aider ou c'est quelque chose, par exemple, sur le plan financier qui vous est impossible ?
Sur le impossible.
C'est impossible. Donc, c'est vrai qu'il y a des situations, hein, professeur Ouédraogo, et vous en êtes le témoin, vous le savez bien, sur le continent où vraiment on se retrouve démunis sur le plan de la santé mentale.
Oui, mais vous comprenez, actuellement, il y a aussi, c'est aussi des expériences de la COVID, hein, une possibilité de demander ne serait-ce qu'un entretien téléphonique
à distance.
Je pense que c'est important.
Oui, oui.
Je crois que avec, si elle a la possibilité d'accès à WhatsApp, elle peut entreprendre des démarches et expliquer les difficultés pour elle de se déplacer. Et de pouvoir s'entretenir par WhatsApp avec un psychiatre, c'est tout à fait possible.
C'est tout à fait possible. Adaï, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est possible.
C'est important pour vous. Tout à l'heure, on en parlait avec la pédopsychiatre. Ce mot d'espoir, c'est très important, justement, qu'on ne se sente pas enfermé dans une pièce, qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Vous sentez aujourd'hui qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, Adaï ?
Oui, il y a une possibilité.
Il y a une possibilité. Un dernier mot, docteur
Gavard.
Oui,
je voudrais vous dire quelque chose, Adaï, que je pense, une chose que je pense extrêmement importante. Lorsque vous avez eu des idées suicidaires, et que vous avez peut-être encore maintenant, vous n'avez pas envie de mourir. Vous avez envie que la situation très injuste soit reconnue et d'aller mieux. Donc, ce n'est pas un désir de mort, c'est un désir d'un changement de votre vie. C'est-à-dire avoir à nouveau accès au bonheur, à la reconnaissance, à la communication. Mais j'insiste sur le fait que vous ne voudriez pas déjà être morte, enterrée, etc. C'est pas ça. C'est changer, arrêter votre malheur et retrouver une joie de vivre. C'est plutôt ça, votre démarche. Et lorsque vous dites que vous n'avez pas fait de tentative de suicide, c'est parce que ça, vous le sentez aussi, que c'est un changement de votre situation actuelle que vous désirez.
Et vous faites en tout cas, vous avez déjà engagé une première démarche pour le faire. On vous remercie infiniment, Adaï, pour ce précieux témoignage. On vous retrouve, professeur Ouédraogo, à Ouagadougou. J'employais tout à l'heure le terme de tabou pour parler du suicide. C'est aussi une réalité dans votre pays, le Burkina Faso.
Oui, absolument. C'est aussi un sujet très tabou. Et donc, au sein de la population, c'est très difficile d'en parler, bien que le phénomène existe depuis que l'homme existe sur Terre.
Et justement, par rapport à ce tabou, est-ce que vous avez le sentiment, professeur, qu'il y a une sorte de sous-déclaration du nombre des suicides dans votre contexte, parce qu'on n'en parle pas dans la famille, parce que ça ne se fait pas, parce que c'est scandaleux, le suicide ?
Oui, c'est vrai. Déjà qu'on n'a pas un système de notification à l'échelle nationale, et même quand ce système existe, c'est très difficile en fait, d'avoir des données fiables, puisque étant tabou, personne ne veut en parler et donc surtout pas les familles. Donc on ne risque pas d'avoir en fait des données pertinentes et exhaustives concernant ce phénomène-là.
Les familles qui gardent le silence, est-ce que ça change du côté des pouvoirs publics et des médias ?
Oui, les médias, c'est sûr qu'il y a des cas de mort par suicide qui sont relayés par les médias et qui souvent aussi contribuent à éclairer l'opinion publique sur le phénomène et surtout aussi un appel à l'ensemble en fait, des acteurs par rapport donc, aux actions de prévention. Oui, les médias, en tout cas, jouent un rôle très important aussi dans l'information du public par rapport à ce phénomène-là.
On connaît les difficultés de la santé mentale dans le contexte africain. Pour les personnes en souffrance, est-ce qu'il y a, professeur, des dispositifs d'écoute, des structures d'accueil, d'écoute ? Comment ça se passe ?
Oui, alors les personnes qui généralement ont fait des tentatives de suicide et qui recourent au système de santé peuvent recevoir bien sûr un accompagnement personnalisé et qui passe parfois aussi par une prise en charge d'une pathologie psychiatrique sous-jacente parce que les tentatives de suicide peuvent survenir sur déjà des personnes qui présentent des troubles, mais il y a que dans certaines régions très reculées où les gens n'ont pas accès à des spécialistes, c'est parfois géré, on va dire, de manière assez sommaire, parce que bon, les personnes n'ont pas la possibilité de voir des spécialistes, et peut-être dans certaines situations, la gestion en fait des lésions dues à la tentative provoquée par la tentative de suicide, ça se limite à ça, tout simplement.
Alors, une dernière question, professeur Ouédraogo. Ce 10 septembre, journée de prévention du suicide à l'échelle internationale, vous, pour les personnes qui écoutent en ce moment l'émission, c'est quoi le message de prévention que vous souhaitez faire passer?
Alors, c'est important pour assurer, en fait, une prévention du suicide, de pouvoir prendre en charge correctement les personnes qui ont déjà des idées suicidaires, des personnes qui ont déjà fait des tentatives de suicide. Parce que devant toutes ces conduites-là, la hantise, c'est surtout la récidive. Et malheureusement, on peut avoir aussi l'issue fatale, qui est donc le décès par suicide. Donc, comme mes collègues l'ont répété, il ne faut jamais banaliser le geste suicidaire. Il faut toujours être capable d'écouter, en fait, la personne en détresse, de comprendre ses motivations et de pouvoir aussi évaluer le degré de dangerosité. C'est cela aussi qui permet de faire une prévention personnalisée. Ensuite, les familles. C'est important que les familles des personnes qui sont décédées de suicide puissent avoir un accompagnement, ce qu'on appelle la postvention. Malheureusement, c'est très peu développé dans nos contextes. Il n'y a que en ville où de temps en temps nous recevons l'entourage des personnes qui sont mortes par suicide. Ces personnes-là ont besoin également d'accompagnement parce que les facteurs ayant entraîné la mort par suicide peuvent aussi concerner l'entourage. Et donc, s'il n'y a pas un minimum d'accompagnement, il peut y avoir également des risques de contagion. Ensuite, c'est comprendre aussi, en fait, les difficultés qui concernent ces personnes-là et de pouvoir aussi offrir des alternatives que, vous voyez, de considérer que la mort est la seule solution donc aux difficultés existentielles.
Merci infiniment, professeur Ouédraogo, pour votre éclairage. Il nous reste très peu de temps. Docteur Marie-Claude Gavard, cette question que j'ai posée à vos consoeurs et confrères, message de prévention, pour vous, l'essentiel, c'est quoi aujourd'hui?
C'est d'aller, dès le plus jeune âge, voir un pédopsy ou un psy lorsqu'il y a un problème. C'est faire le point en sortant de l'adolescence, avant évidemment s'il y a des problèmes, mais en sortant de l'adolescence, de tout ce que l'on a vécu de désagréable en famille, notamment en famille, à l'école, etc. C'est-à-dire faire le point de nos dysfonctionnements. Comme ça, ça nous permet de restimuler nos potentialités, diminuer les inhibitions et croire en nous. Parce que c'est vraiment souvent l'éducation, parce que le suicide n'arrive pas du jour au lendemain. Ça peut être le fruit de 20 ans ou 30 ans de déséquilibre, de malheur, etc. Donc la prévention du suicide, c'est comprendre pourquoi on est malheureux et comment corriger ça. Et ça, avec l'aide d'un psy, c'est souvent tout à fait possible.
Connais-toi toi-même. Merci beaucoup, docteur Marie-Claude Gavard. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Priorité santé sur RFI.
Un sujet d'actualité puisqu'il est question de rentrée de fournitures scolaires. Mais là, il est question aussi de substances chimiques toxiques. C'est avant les vacances d'été que l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, a tiré la sonnette d'alarme au sujet de la présence de produits potentiellement toxiques dans les stylos à billes et autres surligneurs fluo qu'on trouve dans les trousses. On en parle maintenant avec vous. Aurélie Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes coordinatrice de l'expertise au sein de l'ANSES. Sur quel type de produits, de fournitures, cette expertise porte-t-elle ?
Alors, l'agence a identifié de nombreuses substances chimiques dangereuses dans des fournitures scolaires, quelles qu'ils soient. Ça peut être des gommes, des stylos, des craies, des rubans adhésifs, des marqueurs. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de types différents de fournitures dans lesquelles on peut trouver ces substances chimiques.
Longue liste de fournitures également, longue liste de substances qui sont pointées du doigt.
Effectivement, on a pu identifier un certain nombre de substances. Ça peut aller de phtalates, des substances parfumantes, des métaux, comme des conservateurs tels que les isothiazolinones, par exemple.
Est-ce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes à ce type de substances chimiques ?
Alors, c'est vraiment très dépendant des substances qu'on peut trouver. globalement, on peut dire que toutes les populations peuvent être sensibles à ces substances. Quand je parle, par exemple, des conservateurs et des isothiazolisones ou des substances parfumantes, ce sont des substances qui sont allergisantes, donc ça peut toucher toute la population.
Est-ce qu'on connaît vraiment les effets potentiels en cas de contact prolongé, voire même d'ingestion, hein? On connaît ceux qui mâchouillent les bouts de stylo. On a été aussi une génération qui a pas mal mangé, oui, j'ose le dire, de la colle blanche. Aurélie Mathieu, est-ce qu'on sait quels sont les vrais risques?
Alors aujourd'hui, non, on n'a pas fait ce travail d'évaluation de risque. On a fait un travail vraiment d'identification des substances. On sait que dans ces substances qui ont été identifiées, il y a des substances qui sont dangereuses. Mais par contre, on n'a pas, il y a une vraie différence entre le risque et le danger. Mmh. Et ce travail sur le risque, il n'a pas été fait aujourd'hui.
Et au niveau de la proportion des fournitures concernées, ça veut dire pour les personnes qui vont remplir le cartable, est-ce qu'il y a des produits demain qui pourraient avoir des logos, une signalétique qui permettrait de savoir, ben, avec ça, ben, mon enfant ne risque pas dans 10, 20, 30, 40 ans d'avoir des soucis de santé ?
Alors non, aujourd'hui, on peut pas, il n'y a pas de signalétique. En revanche, on sait déjà qu'on peut conseiller aux consommateurs certains comportements. On peut justement leur conseiller de privilégier des fournitures qui contiennent pas de substances parfumantes, pas de paillettes, pas d'artifices. Toutes ces petites choses qui pourraient inciter les enfants à mâchouiller, comme vous disiez, voire avaler des morceaux, voire même sniffer des fournitures. Alors, donc ça permettrait au moins de limiter l'exposition.
Et est-ce qu'on sait des choses sur le mode d'administration potentiel ? Parce que là, vous disiez inhaler, vous disiez avaler. Est-ce qu'il y a des comportements qui sont plus à risque que d'autres ?
Ça dépend vraiment des substances chimiques qui sont présentes. Il y en a certaines, effectivement, qui sont des allergisants cutanés, je vous le disais tout à l'heure. Donc, effectivement, quand on est en présence juste de ces substances au niveau cutané, on peut développer une allergie. Pour d'autres, il faut les inhaler ou les ingérer. Donc, c'est vraiment très dépendant, c'est très substance dépendant.
Alors, cette expertise de l'ANSES, Aurélie Mathieu, votre appel remonte maintenant au mois de juillet. On a choisi d'y revenir justement parce que c'était la période de la rentrée. Est-ce qu'il y a eu des réponses, des réactions, je pense bien sûr, au pouvoir public et puis aussi à l'échelle nationale, échelle européenne aussi, parce que tout ça ne se décide pas simplement à Paris, il peut y avoir aussi des réglementations du côté de Bruxelles.
Effectivement, nous, ce qu'on a recommandé ensuite à notre expertise, c'est de revoir la réglementation actuelle et en particulier d'appliquer aux fournitures scolaires la réglementation qui est relative aux jouets, qui est plus contraignante puisqu'elle impose des limites, elle interdit les substances cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Et comme pour toute expertise de l'agence, nous, on transmet notre expertise fondée uniquement sur des faits scientifiques au pouvoir public et c'est après à eux de s'en saisir au niveau français mais aussi au niveau européen. Aujourd'hui, on n'a pas eu de retour. Néanmoins, on sait qu'il y a sur le marché encore des produits qui contiennent des substances chimiques puisqu'il y a une étude qui est sortie il y a pas très récemment montrant qu'on pouvait retrouver des substances dans ces types de produits.
Est-ce que certains fabricants ont réagi en modifiant les compositions de ces petits stylos ou de ces petites gommettes ?
Je n'ai pas l'information, je ne peux pas vous répondre pour ça.
En tout cas, vous ne leur avez pas fait une très très bonne publicité, mais ce n'était pas le but. Aurélie Mathieu, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Ophélie Lassène, Emma Garbou, Lorenzoni, Tiffany Menta et Raphaël Lazizi avec nous. Demain, nous allons parler du rôle de la caresse dans les soins. Confiance, apaisement, que sait-on de l'impact du toucher pour soulager, consoler, améliorer l'état des patients, y compris les plus fragiles, y compris chez les personnes très âgées ou dans les services de soins palliatifs. On se dit à demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Bank, qui a le bon profil pour vous accompagner à chaque étape de votre vie et de vos projets.